Graffiti donne la parole à l'Europe en direct en compagnie de Hélène de Europe Direct Vendée. Bonjour Hélène.
Bonjour Bastien.
En préparation de la chronique, tu m'as parlé de zones géographiques que je n'aurais pas forcément associées à l'Union Européenne. Est-ce que tu peux nous les présenter ?
Avec plaisir. Alors en effet, avec cette chronique Europe en direct, on connaît bien maintenant les 27 pays membres de l'Union Européenne. Mais il y a 22 territoires qui sont hors du continent européens et qui sont directement rattachés à l'Union européenne ou entretiennent des liens privilégiés. Et on les classe sous deux statuts. Alors, on va avoir les régions ultra-périphériques. Elles sont 9. Donc, rattachées directement à la France, on a la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin. Mais il y en a également 2 qui sont rattachées au Portugal. Les Açores et Madère. Et puis pour l'Espagne, eh bien, il y en a une qui lui est rattachée, ce sont les îles Canaries. Alors ces 9 régions, elles sont soumises au droit européen qui prend toutefois en compte leurs spécificités, c'est-à-dire qu'elles peuvent bénéficier de financements supplémentaires et d'aides liées à leur insularité et à certaines dérogations au droit européen. Et puis le deuxième statut, en plus des régions ultra-périphériques, on a les pays et territoires d'outre-mer. Alors eux, ils sont 13 et ils relèvent aujourd'hui de 3 États. Donc il y en a 6 qui sont reliés à la France, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et arctiques françaises et les îles de Wallis et Futuna. Et puis on en a 6 qui sont reliés, elles, aux Pays-Bas, Sint-Maarten, Saba, Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao et Bonaire. Et enfin, on a le cas particulier du Groenland, qui est un pays qui est rattaché, lui, au Danemark. Alors par contre, ces territoires, ces pays et territoires d'outre-mer, eux, le droit européen ne s'applique pas. Et ils sont membres de l'espace, et ils ne sont pas non plus membres de l'espace Schengen.
Ah, donc ces pays et territoires d'outre-mer, et ils n'ont pas les mêmes droits que les régions ultra-périphériques ?
Mais non, en fait, les pays et territoires d'outre-mer, ils ne sont pas soumis au droit européen, mais par contre, ils sont associés à certaines politiques de l'Union européenne pour justement favoriser leur développement économique, social et commercial. On a par exemple l'instrument européen pour le voisinage, le développement et la coopération internationale, et tout ça, ça regroupe différents programmes de financement à destination de ces pays et territoires d'outre-mer. Donc, il faut savoir aussi que les produits importés dans l'UE depuis ces pays et territoires d'outre-mer ne sont pas soumis aux droits de douane ou aux restrictions de quotas quantitatifs.
Alors, tu as évoqué tout à l'heure, ça ne m'a pas échappé, le Groenland. On en parle beaucoup en ce moment avec Donald Trump et le nouveau président des États-Unis qui a annoncé qu'il souhaitait l'annexer.
Oui, en 2019 déjà, M. Donald Trump, qui était président des États-Unis, avait évoqué l'idée d'acheter ce territoire. Alors pour information, aujourd'hui c'est 55 000 habitants, hein, pas plus. Mais quand même, ça fait plus
c'est
de moitié.
C'est pas les habitants qui l'intéressent.
Non, parce que en fait, il est grand ce territoire. Hein, il fait plus de la moitié de la superficie de l'Union européenne. Et donc, quand il avait déjà proposé en 2019, le Danemark, qui est donc responsable du Groenland, avait dit non. Et Donald Trump n'était pas le premier parce que déjà en 1867, en 1910 et en 1947, les présidents des États-Unis avaient souhaité éventuellement avoir la possibilité de récupérer le Groenland.
Explique-nous alors pourquoi le Groenland est-il autant convoité ?
Alors je vais reprendre là un article de Toute l'Europe qui a très bien parlé et expliqué de ce cas de figure. Alors Donald Trump avance pour des raisons, veut récupérer le Groenland pour des raisons de sécurité nationale, dit-il. En effet, les États-Unis sont présents depuis la Seconde Guerre mondiale sur le Groenland. Ils ont notamment construit une base aérienne au nord-ouest en 1953. Et donc, le Groenland suscite également les convoitises, non seulement des États-Unis, mais aussi de la Chine, qui a développé des activités économiques et scientifiques ces dernières années, et aussi de la Russie, qui espère régner sur l'Arctique dans les années à venir. Alors, toute l'Europe poursuit en expliquant que ces multiples intérêts s'expliquent par la situation géographique de l'île, parce qu'en effet, quand tu regardes une carte qui est centrée sur le Groenland, on constate qu'ils ont une position stratégique. Le Groenland est constitué en grande partie de glace actuellement. Mais il se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du globe, ce qui entraîne une fonte des glaces. Et quand ces glaces éventuellement sera fondue, ça pourrait ouvrir des nouvelles routes économiques, commerciales et maritimes qui jusqu'ici étaient inaccessibles. Donc c'est une aubaine pour ces 3 puissances qu'on vient de citer, la Chine, la Russie et les États-Unis. Donc Et qu'est-ce qu'il y a sur ce grand territoire qui fait la moitié de la superficie de l'Union européenne ?
Je vous le demande.
Eh bien, 13% du pétrole et 30% du gaz naturel non découvert à ce jour se trouveraient en Arctique. Donc, la majeure partie est au Groenland, selon certaines estimations. Donc, le Groenland regorgerait de terres rares aussi, comme le nickel ou le cobalt, nécessaires à la fabrication de quoi ? Eh bien, des batteries, pour nos téléphones portables notamment. Donc, là aussi, la fonte des glaces pourrait s'avérer déterminante.
Et est-ce que le Groenland pourrait demander son indépendance au Danemark pour gérer ses affaires comme il l'entend et pour pouvoir justement gérer ça au mieux possible ?
Alors, depuis 2009, en effet, le Groenland peut, s'il le souhaite, déclarer son indépendance du Danemark. Donc ce processus passerait notamment par l'organisation d'un référendum et les négociations avec le Danemark sur leurs futures relations. Donc la perspective, eh bien, elle fait des fois surface au niveau du débat public. Et l'actuel Premier ministre groenlandais, Mutte Egede, pardon pour la prononciation, je n'ai pas fait danois première langue, eh bien, il a exprimé son souhait justement d'organiser un référendum sur le sujet s'il emporte les prochaines élections qui auront lieu en avril 2025. Et lors de son discours du Nouvel An, eh bien, il y a fait notamment allusion à cette éventuelle indépendance du Groenland vis-à-vis du Danemark. Mais bon, il faut savoir quand même que le Groenland dépend énormément du gouvernement danois, puisque les fonds versés par le Danemark représentent actuellement 60% du budget de l'île et près du quart de son produit intérieur brut.
Je continue avec Donald Trump, qui a même évoqué l'option militaire pour s'emparer du Groenland. Qu'est-ce qu'il en est réellement ?
Compte tenu de la présence américaine dont on parlait tout à l'heure là, sur l'île, une hypothétique invasion s'avérerait relativement simple, puisqu'ils ont déjà une base militaire. Évidemment, ça créerait un choc sans précédent, notamment parce que les États-Unis et le Danemark sont liés au sein de l'OTAN. Et, comme l'a expliqué une journaliste correspondante politique en chef du journal danois Politiken, elle dit, j'ouvre les guillemets, « Si les USA envahissent le Groenland, ils envahissent l'OTAN. C'est là que ça s'arrête, car dans ce cas, c'est l'article 5 de l'OTAN, entre guillemets, qui implique une attaque contre tout ou l'un des plus, contre l'un ou plusieurs de ses membres est considéré comme une attaque dirigée contre tous. L'article 5 devrait être déclenché. Et si un pays de l'OTAN envahit l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN. Donc, les autres États membres de l'Union européenne, dont le Danemark, pourraient également évoquer l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, appelé aussi clause de défense mutuelle, qui dit: au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres de l'Union européenne lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Donc, autant dire qu'une clause dont bénéficie également le Groenland et dont le porte-parole de la Commission européenne a dit que, évidemment, il y aura une solidarité qui fera que ce ne sera pas possible.
En gros, une guerre lancée par les États-Unis pourrait lancer une guerre contre l'Europe.
Voilà, donc ça pourrait. Et au-delà, puisqu'il n'y aurait plus d'OTAN non plus, et l'OTAN, c'est plusieurs pays sur l'ensemble de la planète.
On espère donc qu'il y aura des garde-fous autour de cette aventure.
À suivre.
À suivre, évidemment. Merci pour cet éclairage sur ce territoire qu'on ne sait jamais trop s'il fait partie ou pas de l'UE. Maintenant, on le sait. Et maintenant, c'est beaucoup plus grave grâce à toi, Hélène. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations autour de l'UE. À bientôt.
Bonne semaine européenne. À bientôt.